Marcher dans l'amour du Christ par Peter Amsterdam. Dans la première épître de Jean, nous lisons cette courte mais profonde déclaration : Dieu est amour. Jean précise ensuite : Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Bien que l'expression « Dieu est amour » ne figure pas dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu est omniprésent tout au long de l'Ancien Testament, pour qui sait lire. Le mot hébreu le plus souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour exprimer l'amour de Dieu est « chesed », que l'on a traduit par « amour, bonté, fidélité, miséricorde et piété ». Sur les 194 fois où ce mot apparaît, il fait référence à l'amour de Dieu 171 fois. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est appelé l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. « Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. » Deux fois dans ce verset, il dit de lui-même qu'il est riche en amour. Or, dans l'hébreu ancien, lorsqu'on répétait un terme, c'était pour insister sur un point particulier. Dans l'Ancien Testament, Dieu déclare qu'il maintient son amour pour mille générations et d'éternité en éternité. De la Genèse à Malachie, la Bible décrit Dieu comme celui qui aime fidèlement et éternellement. Et le Nouveau Testament déclare purement et simplement que Dieu est amour. Tout au long du Nouveau Testament, Jésus est présenté comme étant l'amour de son Père pour l'humanité. En Jean chapitre 3 verset 16, nous lisons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus était l'amour de Dieu qui s'est manifesté parmi nous ici-bas. Il a commandé à ceux d'entre nous qui l'aiment et qui croient en lui de suivre ses enseignements afin de demeurer dans son amour et de refléter son amour pour les autres. Pour nous aider à marcher dans son amour, il a envoyé celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'amour est un des fruits de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mots que le français traduit par amour, mais qui n'ont pas tous le même sens dans le texte original du Nouveau Testament. L'un de ces mots grecs est « eros ». Il exprime l'émotion ou le sentiment d'être amoureux, et il n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Un autre mot traduit par « amour » est « philéo ». Il est employé pour exprimer l'affection, un lien étroit d'amitié profonde, l'amour pour les autres êtres humains, la compassion et l'amour fraternel. Un troisième mot est « storgé ». Il désigne l'amour et l'affection que les gens ont pour les membres de leur famille, en particulier l'amour que les parents éprouvent pour leurs enfants. Le quatrième mot qui est le plus couramment utilisé pour désigner l'amour dans le Nouveau Testament est « agapé ». Dans les Écritures, il est employé pour signifier l'amour de Dieu. Par exemple, en 1 Jean chapitre 4 verset 8, quand Jean écrit que Dieu est amour, c'est le mot grec « agapé » qui a été traduit par « amour ». Tout ce que Dieu fait est motivé par son amour et découle de son amour. Agapé fait également référence à l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain, que Jésus a mentionné dans le plus grand de ses commandements, et à l'amour que nous devons montrer aux autres à l'exemple du Christ. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Lorsque nous lisons des passages sur l'amour agapé dans les évangiles et les épîtres, nous voyons un amour qui fait passer les besoins des autres avant les siens, qui accepte de subir des désagréments, qui accepte volontiers de souffrir pour le bien d'autrui, sans rien attendre en retour. C'est un amour qui fait preuve de bonne volonté, de fidélité, d'engagement et de force de caractère. C'est l'amour dont Jésus a fait preuve et qui l'a poussé à donner sa vie pour que nous puissions vivre avec lui pour toujours. L'amour agapé est l'amour poussé jusqu'au sacrifice dont Jésus a fait preuve et que nous sommes appelés à imiter, au sujet duquel Paul écrivait « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné à lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » C'est l'amour que Jésus nous a demandé à nous qui sommes chrétiens d'avoir les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est aussi le genre d'amour que nous devons montrer, même à ceux qui nous persécutent ou nous maltraitent. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Dans les versions plus anciennes de la Bible, agapé est souvent traduit par charité, ce qui nous aide à comprendre que c'est un amour généreux et désintéressé. Il fait aux autres ce que nous voudrions que l'on fasse pour nous. L'appel à imiter l'amour de Jésus est un appel à ne pas seulement aimer ceux dont nous sommes proches et avec lesquels nous nous sentons à l'aise, ou ceux qui, selon nous, méritent notre amour. C'est-à-dire que nous devrions aimer ceux qui, à notre avis, ne le méritent pas, ceux qui pensent, croient et agissent d'une manière que nous n'approuvons pas. Après tout, Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis, et même ceux qui nous font du tort et nous maltraitent. En 1 Corinthiens chapitre 13, que l'on appelle souvent le chapitre de l'amour, l'apôtre Paul nous a donné une image tangible de l'amour, agapé, quand il a défini ce qu'est l'amour, ce qu'il fait et la façon dont il se manifeste. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. La Bible en français courant formule certains versets autrement, ce qui nous permet d'approfondir notre compréhension de ce chapitre. Elle dit « Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. » Tandis que la parole vivante dit « Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. » Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Cette liste exigeante est une bonne pierre de touche pour nous si nous aspirons à imiter Jésus et à marcher dans l'amour du Christ. Si nous cherchons à incarner son amour, sa compassion et sa bonté auprès des autres. Jésus nous a donné des exemples de la manière dont nous devrions manifester cet amour dans notre vie de tous les jours. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Jésus continue en disant, « Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner, donnez, et l'on vous donnera. » La première épître de Jean réitère les commandements de Jésus en insistant sur l'amour. « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Il continue en disant, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est accompli en nous. » Dans son épître, Jacques nous donne des exemples concrets de la façon dont nous sommes censés mettre en œuvre notre foi et l'amour du Christ. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Il est indispensable d'avoir l'amour du Christ et de le montrer de façon tangible lorsque nous cherchons à ressembler à Jésus. L'amour pour le Seigneur et les autres est le fondement des attributs qui nous aident à avancer dans la ressemblance au Christ. La compassion, le pardon, la gentillesse, la bonté, la douceur et la patience ont tous leur source dans l'amour. La décision de se forger un caractère chrétien, de se défaire du vieux moi pour revêtir le nouveau, comme l'a écrit l'apôtre Paul, découle également de l'amour. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, et sur le fondement de son amour, nous voulons lui ressembler davantage, le refléter, lui et son amour, auprès de tous ceux que nous croisons chaque jour, même si ce reflet n'est qu'une faible lueur de ce qu'il est pleinement. Or, aussi faible que soit cette lueur, elle illumine ce monde de ténèbres et rend gloire à celui qui nous a créés, aimés et sauvés, et avec lequel nous vivons éternellement. Puissions-nous tous grandir à la ressemblance du Christ et être à son image pour mieux le refléter aux autres.